nous allons plonger dans un merveilleux jardin naturel qui revient tous les ans et qui nous a manqué pendant combien de temps? Deux ans?
Deux ans.
Deux ans.
Le temps de la Covid.
Bonjour, Madame Lambert.
Bonjour.
C'est Noël Lambert qui nous en parle puisque vous coordonnez cet événement qui s'appelle Plantes rares au pluriel et jardin naturel au singulier. Il faudra m'expliquer ce titre singulier.
Je l'avais fait il y a deux ans.
Je sais, mais bon.
En fait, ils ont trouvé ce nom-là parce qu'au tout début, moi, j'étais pas dans la bande des bénévoles qui organisent cet événement. Et plantes rares, parce qu'on trouve plein de plantes rares quand on vient jusqu'à Sérignan, mais
oui,
pas que.
Sûr.
Et jardin naturel, parce que c'est un peu ce qu'on veut défendre, le jardin sans, pas rigide, voilà, sans contrainte. Un jardin qu'on regarde, mais qu'on ne trifouille pas, on s'astreint pas tous les week-ends à tondre et toute la semaine à arroser, donc à retondre et à re-arroser et à retondre.
Comme dirait l'autre, c'est pas Versailles ici.
Voilà.
Parce que là, Versailles, le jardin, par contre,
oui, alors
naturel,
nous,
c'est
voilà.
Pas trop le propos.
Ouais, ouais, ouais. Nous, on a des prises de parole qui incitent le public, justement, à observer beaucoup et à accueillir énormément.
C'est joli ce que vous dites.
Mais oui, mais...
Alors, un jardin naturel, l'air de rien, ça veut dire qu'on le laisse
ça veut dire
vivre sa vie de folie.
Alors, on est là. C'est comme quand on éduque un enfant, on est derrière, on ne lui dit pas tout le temps « attention, tu vas tomber », mais on est là pour le sécuriser.
D'accord. Donc, on coupe un petit peu là, on arrange un peu là.
Oui, voilà, voilà. Mais on ne traite pas dès qu'il y a l'apparition de taches brunes sur les rosiers. Le rosier va se défaire tout seul de de ce problème. Parce que si on traite systématiquement tout de suite toute apparition de bestioles ou de taches brunes, et bien forcément, c'est comme, alors, je reprends toujours la métaphore, c'est comme avec un enfant, si on le met sous antibio dès qu'il a un petit bobo, va arriver à l'âge adulte, il est forcément... malade et les antibiotiques lui font plus rien. Les plantes, c'est pareil, il faut qu'elles s'aguerrissent.
L'antibiorésistance.
Ouais, c'est un problème.
Et les plantes, en plus, on découvre qu'elles sont fantastiques, elles parlent entre elles.
Oui.
On s'aperçoit que justement, quand une série d'arbres, par exemple, est attaquée au début de la forêt, ben, il y a des messages phéromonaux, j'imagine.
Tout à fait.
Qui font que les autres se protègent et envoient des toxines qui empêchent l'insecte de les bouffer. C'est extraordinaire.
Eh bien, ça fait tout à fait partie d'une des prises de parole qu'il y aura à l'Armas, le samedi à 14h, l'allélopathie comme alternative au désherbage chimique. Voilà, vous
comment
êtes
ça
en plein dedans. Oui, ça s'orthographie A-L-L-O-P-A-T-H-I-E.
Comme quoi?
En fait, c'est la connexion biochimique des plantes entre elles.
C'est
passionnant, ça.
Oui, c'est fantastique. Ouais. Quand on rentre là-dedans, en plus, c'est un terrain assez nouveau quand même.
Alors,
on l'a vu avec l'intelligence des arbres il y a quelques années.
Oui, ouais, pour le grand public, je pense que c'est relativement nouveau. Mais pour nos scientifiques,
les
pour le Muséum d'Histoire Naturelle, pour les chercheurs, pour l'INRA, non, ce sont des connaissances qui ont un bon moment déjà, oui. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est un peu récent.
Et puis là,
et d'ailleurs, il y a le grand public qui ignore totalement.
En plus, ça révolutionne parce qu'on s'aperçoit que des arbres peuvent s'envoyer du glucose, par exemple, pour se soutenir,
ou
du gaz carbonique.
Hein, ça paraît magique, mais c'est
incroyablement beau, quoi.
Tout à fait. Donc, ça, c'est le genre de choses dont on parlera pendant les deux jours de plantes rares, le 2
mais
et 3.
Du coup, on s'aperçoit que finalement, nos plantes se parlent entre elles, sont intelligentes.
Ouais. Elles n'ont pas besoin de nous. Hein.
Voilà.
Ah, mais complètement.
Non, mais il faut apprendre à les respecter et à les voir différemment. C'est un petit peu aussi le but de votre manifestation.
Tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, c'est complètement le but de notre manifestation. Encore une fois, pour faire en sorte que l'être humain a oublié qu'on parle de la nature, mais nous sommes nature.
Oui, nous sommes dedans.
Nous sommes intégralement nature même. C'est pas qu'on est dedans, c'est qu'on en fait intégralement partie. Ça, c'est des notions qu'on n'explique pas aux enfants et il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ressentent encore ce truc-là. On vit en ville, pour certains d'entre nous, mais on a déconnecté notre... la nature, c'est nous. Nous faisons partie totalement de la nature. Et toutes nos actions ont malheureusement, parce que souvent nos actions sont plutôt négatives, elles ont un poids, je dirais plutôt un poids, une interaction sur les autres membres de la nature. Mais nous sommes la nature. Nous sommes des animaux, nous sommes la nature, oui.
Ok, vous avez raison. Et on a en nous 80% de l'ADN, enfin, on en partage tous plus ou moins le même ADN, hein, puisque, je sais pas, il y a 70%, 80%, même entre les arbres et nous, entre les singes et nous, c'est 98 ou 99,8.
Les porcs et nous, c'est plus,
oui, c'est impressionnant.
Hein,
ouais, donc, on est quand même un peu tous, plus ou moins tous frères, quoi. Comme on dit.
Ouais. Alors, c'était pas tellement ce que j'avais en tête quand je vous disais ça. C'était pas le fait qu'on soit frère ou pas frère, mais c'est que on n'est pas l'être humain et puis la nature.
D'accord. On fait partie la même chose. Intégrante.
Ouais, totalement.
C'est notre famille.
On n'est pas supérieur. Mmh. Et on s'est, pendant des millénaires, senti supérieur. Et encore aujourd'hui, on se sent supérieur.
Surtout vis-à-vis des plantes qui ne disent rien.
Ouais, tout à fait. Et qu'on veut, si c'est beaucoup... Moi, j'ai un voisin, je ne sais pas pourquoi, il a un forsythia, c'est magnifique. C'est le feu. Et bien lui, il le taille au carré. Donc, il a un cube en ce moment jaune. Je trouve ça extraordinairement vilain et en plus extraordinairement parlant de la personnalité de quelqu'un qui veut systématiquement maîtriser géométriquement en plus, qui n'a aucun intérêt esthétique, les choses qui l'entourent.
Oui. Ça qui est intéressant,
et alors,
c'est
ce forsythia, il est à l'image quand même d'une société humaine qui veut systématiquement gérer les choses. Alors qu'un forsythia pas taillé, mais c'est sublime, c'est une flamme, sa vie. Un forsythia taillé en cube, c'est laid.
Bah, ça dépend des goûts, mais c'est vrai que c'est pas très naturel, justement, pour parler de jardin naturel.
Ouais, ouais.
On voit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose.
Oui,
quoi.
On voit tout de suite qu'il s'est passé, que la contrainte humaine est intervenue pour que cette plante pousse carré. Et mais non, quoi. Enfin, d'où la plante naît carré. Je sais pas. Bah, ça, moi, ça m'a toujours, même gamine, ça m'a toujours.
Ben, c'est qu'on fait pareil.
Appelé, quoi, et choqué.
C'est qu'on fait pareil avec les enfants.
Oui, peut-être.
On veut les mettre dans des boîtes ou dans des cubes et comme ça, on y va. Bon, on s'égare un petit peu.
Oui,
là.
Oui,
on
pas est dans tant que ça, en fait. Pas tant que ça.
Mais on est dans le thème, quand même, de ce rendez-vous. Alors, plantes rares, évidemment, on va découvrir énormément de plantes rares parce que quand on arrive dans la manifestation, il y a ce grand parc, je veux dire. Hein,
très
avec
beau.
Beaucoup d'exposants.
Oui, 70 paysagistes, donc paysagistes, n'importe quoi. 70 producteurs de plantes, des pépiniéristes,
voilà.
Donc producteurs de plantes. Et c'est vrai que là, vous allez trouver des plantes qui ne seront pas les mêmes que ce que vous allez trouver dans la grande distribution, on va dire. Surtout, elles sont produites par les gens qui les commercialisent. Ça veut dire qu'ils les connaissent par cœur et qu'ils vont pouvoir vous donner les conseils de culture qui sont vraiment adaptés à votre jardin, à votre terroir, à la nature de votre sol, à l'ensoleillement de votre jardin, à vos habitudes, à ce que vous souhaitez faire et surtout à ce que vous ne souhaitez pas faire.
Voilà.
Donc, vous n'allez pas faire l'achat de coup de cœur parce que vous êtes tombé au hasard d'un rayonnage sur une plante extraordinairement belle tout en fleurs. Parce que si elle ne convient pas à votre sol, ouais, là, le producteur vous dira, bah non, elle est très belle, effectivement, mais ça n'ira pas pour vous. Par contre, j'ai celle-ci qui sera plus adaptée.
Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on discute beaucoup.
Bah, c'est le but. Hein.
Bah oui, non, mais c'est vrai, on voit des plantes, on ne sait même pas ce que c'est. On
oui,
se dit, c'est étonnant.
Ça, c'est vrai.
Et on peut discuter. Et on voit qu'il y a beaucoup de passionnés, donc c'est assez intéressant.
C'est
l'occasion de se rencontrer, de faire
alors,
connaissance.
Alors, ce ne sont que des passionnés parce que, franchement, c'est un métier extraordinairement difficile.
Oui.
Charger le camion, décharger le camion, être debout pendant 2 jours, parler, expliquer tout ça pendant 2 jours, recharger son camion, la pépinière. C'est un métier très difficile, très physique, qui demande énormément de connaissances en botanique et qui n'est pas extraordinairement rémunérateur. Donc, je pense que les gens qui l'exercent, ils sont forcément passionnés, sinon ils changent de métier. Ils vont même pas là-dedans. Oui.
Alors, on se balade donc dans ce grand parc au début avec tous ces exposants pépiniéristes.
Voilà.
Après, on a les autres des petits endroits. Là,
on a aussi
la rue des créations. Là,
dans le parc, on a donc tous les pépiniéristes et puis on a aussi des créateurs d'objets de jardins de déco, sans lesquels nos jardins seraient quand même beaucoup moins jolis aussi. Que ce soit du meuble, que ce soit de la sculpture, voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses en déco, pas trop, faut garder un équilibre. Et puis après, effectivement, on va emprunter la rue de tous les possibles. Et la rue de tous les possibles, nous y accueillons un marché bio, de consommables, hein, plutôt des choses pour se régaler. Et puis aussi toutes les associations militantes qui veulent venir jusqu'à nous et profiter de nos visiteurs pour parler de l'éco-construction, du solaire. Voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, de la production, du local, beaucoup, beaucoup d'associations militantes comme Greenpeace, voilà, beaucoup de choses.
Alors on prend cette route de tous les possibles. On arrive aussi dans la place de tous les talents.
Voilà, sur la place de tous les talents. Et là, on retrouve des artisans d'art.
Oui.
Voilà, qui travaillent le fer, le bois, le tissu, des couturières, des potières pour le grès, la faïence, beaucoup, beaucoup de choses pour agrémenter et nos jardins et l'intérieur de nos maisons. Des belles choses, fabrication locale, des artisans d'art.
Eh oui. Et quand on continue, on se retrouve au naturoptère.
Voilà, on continue un petit peu à pied, ou alors si on est un petit peu, on est plus fatigué, on utilisera la navette et on aura deux navettes qui feront l'aller-retour constamment. Et on va pouvoir se rendre au naturoptère et à l'Armas qui seront ouverts pendant les deux jours. Et avec les 7 euros de l'entrée, qui est 7 euros pour deux jours, on peut visiter les jardins de l'Armas et du naturoptère avec des guides qui vont vraiment vous expliquer la particularité de ces jardins. Le naturoptère, par exemple, a créé un jardin pour les petits, tout petits, dès 2 ans, pour qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils touchent. Là, ils auront le droit de toucher à tout. C'est formidable. Hein,
c'est oui, c'est formidable. Mais moi, j'aime bien les suivre en naturoptère parce que bon, bah, c'est fantastique, hein, la vie des insectes et tout. Puis je me rappelle quand ils avaient créé leur petite mare.
Oui, tout à fait.
On avait suivi, puis ils étaient étonnés parce qu'en 24 heures, il y avait de la vie qui comme quoi la biodiversité est impressionnante parce qu'il suffit de mettre un peu d'eau quelque part et en 24 heures, il se passe déjà des choses.
Voilà. Ouais, ça, c'est vrai.
Et ça, c'est ce qui est fantastique.
Ça, c'est, ouais, c'est vrai. Et ça, ça plaît énormément aux enfants. Bah, hein. C'est un terrain d'observation extraordinaire.
Hein. Ah, les tétards, tout ça, on adore tous quand on est gosses.
Oui, c'est extraordinaire, c'est
fantastique. Alors, les enfants, ben, les parents aussi.
Oui,
ils vont avoir des tas d'animations. Hein.
Je ne sais pas compter, mais il y a énormément d'animations,
ah oui,
qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient ludiques, qu'elles soient artistiques, vraiment pour tous les âges, puisqu'on parlait des enfants à partir de 2 ans, mais vraiment tous les âges, il y a énormément de choses. Je pense d'ailleurs que le mieux, c'est d'aller, pour les gens intéressés, sur notre site www.plantes-rares.com et de télécharger le programme.
Parce qu'il est très riche.
24 pages d'animation.
Mais il y a plein d'ateliers sur la biodiversité, c'est ça que je voulais dire aussi,
tout à
c'est
fait.
Qu'on parle
bah,
de biodiversité.
C'est vraiment notre truc.
Hein. Et il y a beaucoup
c'est
de rendez-vous autour de
le
ça.
Le compost, la biodiversité, créer son jardin en lasagne, la permaculture, un petit peu on tend vers... Il y a beaucoup de jeunes couples qui veulent tendre vers l'autonomie. Avoir leur poulailler, avoir leur potager, avoir quelques arbres fruitiers. D'abord, économiquement, là, on parle du budget des familles. C'est un truc de ouf, hein, la différence.
Oui, mais pour la sécurité alimentaire aussi, on s'aperçoit que c'est quand même important.
Exactement. Bah, vous avez tout dit.
Il faut quand même penser à faire analyser son sol avant, parce que
c'est vrai,
on peut avoir des très mauvaises surprises.
Et la nappe phréatique aussi, qui a quand même été bien bousillée. Mais de toute façon, ça sera toujours mieux que de manger des choses en agriculture traditionnelle qu'on aura trouvées à l'hypermarché, qu'auront été cueillies peut-être pas mûres, qu'auront voyagé dans on ne sait pas dans quelles conditions. Donc c'est vrai que moi, je trouve épatant ces jeunes couples de 30 ans là, qui ont des petits-enfants en bas âge et qui ont en plus faire un potager, avoir un poulailler et s'en occuper en famille. Je trouve que ça établit tout de suite des relations qui sont autres. Et vraiment, les gamins, ils adorent ça. Si vous leur donnez une responsabilité, un petit bout de terre, même si on vit en lotissement, même si on n'a que 300 mètres carrés d'espace extérieur dans son lotissement, c'est quand même plus malin d'en faire un petit potager qu'un carré de pelouse.
C'est sûr. Puis on a de plus en plus de jardins partagés aussi. Même quand on est en appartement maintenant, il y a des villes qui prévoient.
Tout à fait. Sérignan, on a un. Et d'ailleurs, c'est une association, les jardins familiaux. Et les membres de l'association seront présents pour animer des ateliers sur inscription. Et il y en aura deux différents. Il y en aura un le samedi, purin maison. Quel purin pour quelle utilisation? Et puis, le dimanche, ce sera les recettes, les trucs et les astuces pour utiliser toutes les courgettes qui arrivent à maturité en même temps.
Parce que
c'est sûr, quand on a un potager, on a que les haricots verts pendant un moment, puis après toutes les tomates, et puis après...
Ben, c'est là qu'on voit que la nature, elle est généreuse, elle.
Oui.
On plante une graine et puis on récolte 8 kilos de tomates, quoi.
Alors ça, c'est pas magique.
C'est impressionnant.
Ça dépend de la graine que vous achetez. Oui. Évidemment, c'est si vous n'avez pas acheté de la F1.
Ah oui, vous voulez dire des graines
comme ça,
qui ont
vous les gardez d'une année sur l'autre. Voilà, vous avez votre petite production de tomates et puis vous gardez un petit peu de graines pour l'année d'après. Et vous vous rendez compte économiquement ce que ça représente.
C'est impressionnant.
D'une année sur l'autre, vous n'avez pas à racheter vos graines. C'est quand même...
Après, il y a d'autres débats, puisque économiquement, justement, il y en a qui veulent ce pouvoir de la graine, se l'approprier et en mettre
mais on n'est pas forcé d'obtempérer.
On résiste, voilà. Comme Coco Pelli, par
comme
exemple.
Comme Coco Pelli, là, cette année, on a le grand retour du Jardin des Curieux, des Vauclusiens, super sympa, qui commercialisent des graines, vraiment maison, triées à la main, dans des petits sachets de papier craft, tout noté, des bons légumes.
Et c'est là qu'on s'est aperçu que des fois on pouvait être hors la loi juste parce qu'on voulait cultiver une variété de courge qui n'est pas dans le catalogue.
C'est impressionnant. Là, heureusement, Coco Paoli a eu les moyens d'aller jusqu'au bout de ce combat avec leur avocate qui est hyper pointue.
Puis une levée internationale. Hein. Beaucoup de gens ont réagi un peu partout.
C'est épuisant, sauf on est toujours obligé de se battre.
Bah oui. Surtout pour des graines, quoi.
Pour
avoir le droit de planter une courge ou une tomate, c'est vraiment incroyable.
C'est pas pour les graines, en fait. Oui, mais c'est pour l'argent que ça représente.
Oui, mais on est complètement largués, nous, par rapport à ça. On n'imaginait même pas que derrière ça, il y avait des grands groupes qui veulent gérer la semence. Quoi.
C'est ça, du monde entier. Parce qu'en Inde, c'était extraordinaire. En Inde, c'est la responsabilité des femmes. Donc, en plus, ça leur donnait un petit pouvoir par rapport au reste. Enfin, un grand pouvoir, parce que c'est le pouvoir de la vie. Et quand ces graines ont été commercialisées, ces F1 ont été commercialisées en Inde, elles ont perdu ce rôle qui était extraordinairement important. Et c'est une catastrophe.
C'est comme ça. Enfin, pour revenir avec nos enfants, je disais aussi ce qui était pas mal quand on fait son potager, c'est qu'un enfant apprend à voir que une tomate, ça pousse pas en 30 secondes.
Oui, tout est.
On a la patience de la voir grandir, de voir. Il y a aussi cette magie, la fleur, la graine, le fruit qui grandit, qui rougit, qui voilà.
Et puis le potager, il faut y aller tous les jours. C'est vrai aussi que c'est quand même une contrainte. Il ne faut pas penser que tout est facile. Non, ça apprend aussi que régulièrement, tous les jours, il y a un acte à faire. Il faut aller, il faut surveiller l'arrosage, il faut griffer, il faut pailler. Voilà, ça ne vient pas tout seul.
Il faut le surveiller, comme un enfant.
Il faut l'aider. Oui, il faut l'aider.
Enfin, c'est plantard. Alors, il y a un très, très gros programme. C'est vrai que je le rappelle. Allez voir sur le site, parce que c'est vraiment tellement énorme. On ne peut pas tout développer là. www.plante-rare.com. Et allez-y. C'est le meilleur moment. C'est la meilleure façon de vivre l'événement. Parce que ça, j'y suis allé la dernière fois. C'était il y a 2 ans.
Ouais.
Et c'est vrai que j'étais surpris parce que c'est vraiment. On se balade. Enfin, il y a vraiment tout.
Il y a une bonne ambiance.
Oui, puis on n'arrête pas de voir des choses. Franchement, on ne s'ennuie pas une seconde. On peut y passer l'après-midi tranquille.
Ah, mais on peut y passer. On a beaucoup,
même deux jours, on peut y passer, il n'y a pas de problème.
On a beaucoup de personnes qui ont déjà réservé leur hôtel, leur gîte. Tous les gîtes sont complets à Sérignan, à Camaret, à Orange. Parce que le public sait que pendant 2 jours, et même ils repartent frustrés, même pendant 2 jours, on n'a pas le temps. On ne peut pas assister aux 10 conférences. On ne peut pas faire les 30 sorties botaniques. On ne peut pas faire 50 ateliers pratiques, les cours de jardinage.
Il y a un petit côté frustrant.
Oui.
Comme quand on visite des grands musées qu'on ne peut pas tout faire. Vraiment,
et on se dit, on reviendra.
Bon, voilà.
On reviendra.
Pourvu qu'on puisse l'organiser tous les ans maintenant sans problème.
Alors maintenant, j'espère bien, on croise les doigts.
En tous les cas, je vous donne rendez-vous si vous nous écoutez le 2, le 3 avril. Ce sera à Sérignan-du-Comtat, le pays de Jean-Henri Fabre, le roi des insectes.
Oui, tout à fait. Voilà. Sans masque, sans passe vaccinal, rien. Donc, on arrive là, cette fois-ci, au bon moment. Voilà. Donc, venez, n'ayez pas peur, vous ne serez pas refoulés, vous serez bien accueillis par tous les bénévoles qui sont là pour vous.
Merci, Noël Lambert.
Mais à vous, je vous dis merci de m'avoir accueilli.
À bientôt.
À bientôt.